I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Bande dessinée. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Catherine Robin, Antoine Guillot et Victor Massé de l'Épinay. C'est une première pour Victor, bienvenue à lui. À notre sommaire, portrait d'un buveur de Schroven, Rupert et Mulot aux éditions Dupuis. Cassandra Dark de Posy Simmons chez De Noël Graphique. Et puis Saint-Rose à la recherche du dessin ultime de Micole chez Futuropolis. Le cœur d'Antoine Guillot battra très fort. Pour une, et très grand, parce qu'une riche actualité Blutch, qu'il nous détaillera tout à l'heure, exposition à Strasbourg, mais aussi livre dans son grand coup de cœur. Et nous ouvrons cette dispute avec Portrait d'un buveur de Schroven, Rupert et Mulot. Ça fait trois noms, hein, vous avez bien compté. Rupert et Mulot qui se sont installés en une quinzaine d'années. En haut de la liste des bédéastes qui comptent, associé ici donc à un autre grand formaliste, Schroven, un livre de genre autour de la figure d'un pirate prénommé Guy, on va en parler, c'est pas sa seule étrangeté, son prénom. Avant de parler de l'album, quelques mots de présentation de ses auteurs, Antoine sur Schroven, dont on a déjà parlé dans cette émission.
Oui, et d'ailleurs, c'est le gag, parce que vous dites Schroven, et moi, je vais dire Schroven, comme on va le dire à la
J'ai dit Posy Simmons,
hein, vous avez fait très bien.
Et non pas Simmons.
Voilà.
Et alors, comment vous dites Schroven?
Schroven, comme vous dites Scarbeck, vous voyez, c'est la prononciation flamande, puisque Olivier Schroven est flamand. Il est un des deux grands auteurs de bande dessinée flamande avec Bert Evans, dont on parle régulièrement aussi de leurs œuvres, c'est quelqu'un, ils ont ça en commun de faire comme Guy Madin fait au cinéma, par exemple, c'est-à-dire qu'il revient aux origines et il réinvente la bande dessinée comme si elle était partie dans un sens différent. Et c'est vrai que son dessin fait penser à la fois à Mackay, à McManus, à tous ces grands créateurs américains au départ. Et c'est quelqu'un qui a une renommée internationale parce que il lui arrive même de sortir ses livres d'abord aux États-Unis avant de les sortir en Belgique flamingante ou en France. Et on lui doit des livres formidables. Je crois qu'on a parlé quasiment de tous ces livres ici, L'homme qui se laissait pousser la barbe, Le miroir de Mowgli qui a été réédité récemment, et puis Arsène Schroven qui était vision fantasmée de l'histoire de son grand-père, ses aventures coloniales au Congo.
Ouais, qui était assez formidable, même moi je dois bien le dire. Schroven, j'essaie de me souvenir pour la prochaine fois. Catherine Robin sur Rupert et Mulot.
Oui, c'est plus simple à prononcer, c'est vrai, ça fait plus la chance
on
de détective.
On pourrait dire Rupert, mais non, c'est Rupert.
Ce sont deux jeunes gens
plus si jeunes,
ça dépend de
c'est la même génération en fait qu'Olivier Schroven.
Voilà, mais biberonné et adoubé par l'association, cette maison d'édition née dans les années 90 et qui a façonné la nouvelle bande dessinée d'aujourd'hui. Ils sont ni issus des Gobelins ni des Arts Déco de Strasbourg qui était un vivier pour toute cette génération. Eux, ils sortent des Beaux-Arts de Dijon et ils rejoignent un peu Olivier Schroven dans leur souci de la forme, leur expérimentation formelle. Tous leurs albums sont un peu des choses très nouvelles. Leur dernier album avant celui-ci était une espèce de carte IGN intitulée Soirée d'un faune, qui était une espèce de
immense plan.
Voilà, je ne sais plus, mais en tout cas voilà. Donc ils sont proches de Lou Bappo, voilà. Donc dans ces expériences
de bande dessinée
potentielle, absolument. Et leur particularité narrative quand même, c'est aussi tout ce jeu avec les limites, c'est-à-dire qu'ils sont assez corrosifs, ils vont vers le mauvais goût. La gêne, la malaisance, ils aiment bien aller sur ces terrains-là, avec une ironie, une fausse arrogance qui parfois qui est assez symptomatique de cette génération aussi. C'est pour ça qu'ils ont aussi travaillé avec Bastien Vivès, qui manie aussi un peu la même ironie et qui peut plaire ou déplaire, ça dépend.
On va voir ce qu'il en est pour ce livre. D'abord, avec un premier tour de table rapide, une petite phrase pour exprimer déjà un premier ressenti sur l'album. Victor Massé d'Épinay.
Moi, une petite phrase pour dire que si vous avez des enfants qui sont fans de Jack Sparrow ou qui vous demandent sans cesse des histoires de pirates, il faut leur lire Portrait d'un buveur. Ils n'y reviendront pas de sitôt.
Ah, c'est ça. Mais quel âge pour les enfants?
Non, si on veut être tranquille. Ceci dit, c'est évidemment pas pour les enfants. C'est totalement amoral. On va y revenir. Mais très amusant.
Bon, on va essayer de fixer un âge, une fourchette pour donner des indications. Antoine Guillot, une phrase sur ce portrait. Non, comment ça s'appelle? Portrait d'un buveur.
Portrait d'un buveur. Moi, je cache pas mon enthousiasme. Hein. Pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre de l'année. Chef-d'œuvre très très noir. C'est un peu du Stevenson, effectivement. Excusez-moi, j'ai des références un peu plus anciennes. Revisité par Bukowski.
C'est votre âge, ça. Vous avez juste 150 ans de plus que.
Pour donner des images, ça pourrait être du James Ensor et du Odilon Redon en même temps. C'est pas rien, quand même.
Pas mal. Catherine Robin.
Ben moi, juste une phrase affreux, sale et rhum blanc.
I'm wet, my love, by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Portrait d'un buveur de Scroen Rupert Émulo. Victor Massé d'Épinay, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on découvre et qu'est-ce qu'on va découvrir comme parti pris formel en ouvrant cet épais album?
Cet épais album de 170 pages, eh bien écoutez, ouvrons-le aux premières pages de l'histoire. Peut-être qu'on reviendra sur les pages de garde, je ne sais pas. Que voit-on? On voit sur une page de gauche une grande main de squelette qui ouvre un rideau très épais, un rideau bleu nuit, un peu organique. Donc on est tout de suite dans la première note est lugubre, macabre, et dévoile une première image, pleine page, sur la page de droite. Alors que voit-on sur cette image? On voit un homme chaussé, couché par terre, la tête dans le coude, avec une bouteille renversée à ses côtés. Il est au bas d'un escalier de pierre, sur ce qu'on pense, ce qu'on devine être un quai. C'est un dessin très très élégant, très simple, comme on en a l'habitude avec Rupert Émulo ou avec Scroven, mais ce dessin est tout de suite barbouillé de couleurs, du bleu, du rouge, qui se plus ou moins délavé, qui se mélangent, qui font du rose, du mauve, et c'est tout de suite les couleurs dans cette première page qui vont irriguer un peu tout l'album, toutes ces 170 pages d'album. Alors si on tourne la page, on voit cette même image, ce même homme couché, la tête dans son coude, mais un peu plus dégagé, la couleur se monte vers l'arrière-fond de l'image. Et puis, la première page découpée en cases, la page 7, on voit six cases de cet homme qui se réveille, qui émerge de ce qu'on devine être un sommeil assez éthylique, qui boit et qui lance, comme on lancerait un rot en bas de cette page, un prénom, Guy. Alors, c'est très mystérieux. Alors, ça continue. Ensuite, on peut continuer à tourner les pages.
Bon, il en reste 160.
Il en reste 160, mais les six suivantes sont découpées comme ça. On voit cet homme et on le suit dans une sorte d'errance sans but. Et il chantonne, il dit son prénom, il dit dadi dada, lali lala, et ça dure comme ça. Donc les partis pris formels, il y a des partis pris esthétiques, on va sans doute y revenir, ces couleurs, j'en ai parlé. Mais il y a surtout un parti pris rythmique qui est que c'est un rythme non pas contemplatif, mais très divagant. On erre avec un type qui est quand même complètement ivre, presque du début à la fin de l'album. Et donc... ça commence comme ça, on nous invite à rentrer dans ce rythme d'une histoire un peu sans queue ni tête. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Rupert Émulo et Scroven ne se sont pas gênés pour innover, pour aller chercher plein de choses, plein de façons de raconter. Ça va de la pleine page avec des cases en transparence sur un grand décor ou des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus rythmées. C'est voilà, beaucoup d'innovation formelle.
Alors, histoire sans queue ni tête, mais quand même, Catherine Robin, moi... envie de savoir de quoi ça parle. Bon, moi je l'ai lu, hein, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, on a parlé d'un pirate, visiblement il a l'air de s'appeler Guy, d'aimer l'alcool, et de faire un peu des choses bizarres, mais qu'est-ce qui va lui arriver à ce garçon, sans trop en dire non plus.
Vous avez déjà dit quelque chose d'important, c'est qu'il s'appelle Guy.
C'est Victor qui m'a décrit.
C'est quand même déjà tout un mystère, parce qu'on situe à peu près l'action, je ne sais pas, grosse fourchette, 17e, 18e siècle. Ça ne doit pas être un prénom très en cours à l'époque. Donc c'est déjà un peu bizarre. Mais donc Guy, comme vous l'avez dit, Victor, c'est un affreux, sale et méchant. Mm-hmm. La première scène du livre que vous avez décrite, il est dans une situation de vulnérabilité. Mm-hmm. Il est au pied de cet escalier. On se demande ce qu'il fait là. Bon, bah, très vite, on constate qu'il est à la rue, qu'il chante, qu'il harangue les passants. Et puis, la fin, je dis juste la fin de cette première scène où il finit par tuer un homme, plus riche, un passant. Voilà. Et il tue quelqu'un. Et là, on se dit, bon, c'était le chapitre introductif. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va m'expliquer d'où il vient? Quels sont, pourquoi il en est arrivé là? Pourquoi il est alcoolique? Pourquoi, voilà. Bon, en fait, pourquoi il n'est pas gentil? Voilà. Mais en fait, on le saura jamais, puisque c'est pas du tout ça le propos du livre de Schroen, Rupert et Mulot. C'est pas du tout ça. C'est juste 24 heures de la vie d'un buveur, sans aucune intériorité, sans aller jamais à l'intérieur de ce qu'il ressent. Et je pense qu'on y reviendra, mais je trouve que c'est une boucle et que, certes, c'est vraiment brillant d'un point de vue formel et graphique, mais d'un point de vue narratif, je trouve que ça pêche et que ça tourne un peu à vide et que on passe de Guy est méchant, Guy est voleur, et que c'est une répétition sans cesse de ce même de cette même rythmique dont on parlait tout à l'heure. Soit, mais après.
Alors après, Antoine Guillaume, on a compris, vous avez déjà annoncé que c'était le premier chef-d'œuvre de l'année. Donc la question qu'on pouvait se poser effectivement en découvrant ce livre, c'est de se dire, c'est bien beau de mettre trois noms talentueux, mais est-ce que les talents c'est une simple addition? Est-ce que c'est une alchimie? Est-ce que c'est une soustraction? Parce que tout peut arriver pour vous, c'est clairement, il se passe quelque chose
alors
de
pour
plus.
Pour le coup, on est vraiment dans l'alchimie. C'est intéressant de comparer avec le travail qu'ils avaient fait avec Vives, qui partait beaucoup plus vers le manga, vers l'aventure un peu télévisuelle et colorée. Ici, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, par exemple, le travail respectif des uns et des autres, je pense qu'il leur serait très difficile de pouvoir identifier avec certitude qui dessine quoi, par exemple. Et pourtant, ils se répartissent de manière assez évidente le travail. Le personnage même de Guy est très manifestement pris en charge par Arsène Schroen. Et tout ce qui se passe autour, et notamment les combats absolument furieux qu'il y a, tout ce qu'il y a de plus cruel, me semble venir de Rupert et Mulot. Et le lettrage même, on le reconnaît, vient de Jérôme Mulot, qui est celui qui lettre quand il travaille en commun. Ce qui est très beau dedans, c'est qu'il y a vraiment le mélange des grandes préoccupations à la fois formelles, mais aussi de contenu des trois auteurs, qui serait la cruauté d'un côté, on en a parlé avec Rupert et Mulot, et le goût pour l'idiotie, qui est très profond chez Schroen, on l'avait vu notamment dans l'histoire d'Arsène Schroen. Ces personnages qui sont là, qui ne sont pas très inquiets de ce qui se passe autour d'eux, sauf quand ils peuvent en tirer profit, qui sont d'une amoralité totale. Et alors là, c'est un festival ici de noirceur, mais c'est vrai que le personnage est tellement monstrueux dans ce qu'il fait, tout en ayant l'air assez normal pour son époque, parce que pour un personnage qui a goût à la boisson, comme ça, la meilleure manière de s'en sortir, c'est d'ossir des passants de temps en temps. Donc ça y va franchement dans quelque chose qu'on sent très vrai, d'une seule façon, dans les normes. Là où on peut commencer à contrer les arguments par rapport à la question narrative, le livre est important. Dès le début, et ça commence comme ça, d'ailleurs, avant même les pages que vous avez décrites, ça commence par un portrait de cet homme hagard, le regard mi-endormi, ses dents cassées et son collier de valeur autour du cou, et une danse macabre, là pour le coup. Et moi, c'est ça qui me touche le plus dedans, c'est parce que ce tissu, ce rideau que vous avez donné, on pourrait aussi en parler comme d'une membrane musculaire. La deuxième, c'est presque un accouchement vu de l'intérieur, et c'est cette membrane incertaine qui sépare le monde sensible et le monde qu'on pourrait dire métaphysique, et ce qui se passe entre ces deux réalités, moi je trouve ça mais phénoménal. Le délirium tremens comme moyen d'accéder à l'au-delà, ou pour les morts de revenir sur Terre, c'est génial. C'est déjà la troisième ou quatrième fois que je le lis et je suis dans un état d'extase à chaque fois.
Alors, je trouve qu'effectivement, cette dimension de limbe presque purgatorielle, c'est vraiment une des choses qui me paraît le plus intéressant. Par contre, Portrait d'un buveur, moi je suis d'accord avec Catherine Robin. Moi je pense qu'il y a tromperie sur la marchandise. Il n'y a aucun portrait. Parce qu'il n'y a, a pas d'incarnation. Il y a quelqu'un qu'on suit. Il y a des, il y a des formalistes au travail et qui font en effet un travail rythmique, un travail de forme, un travail de planche, un travail de visage sans visage, enfin des choses qu'on connaît par ailleurs chez les uns et chez les autres. Mais moi, il me manque quand même, il m'a manqué une épaisseur. On n'a pas entendu Victor Massé de l'Épinay sur cette question.
Mais c'est vrai qu'on reste en tout cas très très extérieur à ce personnage de Guy. Pour reprendre un peu, que ce soit Stevenson ou Pirates des Caraïbes ou Barbe Rouge, tous les ingrédients finalement de la littérature pirate sont là. Il y a l'île mystérieuse, il y a les indigènes, il y a l'abordage, toutes les choses sont là. Et ce buveur qui est là au milieu n'a de prise presque sur rien, ou en tout cas rien n'a de prise sur lui. À l'occasion, il tue lâchement quelqu'un, il ment, il urine sur la tête d'un pauvre vieux.
Parce que c'est marrant.
Mais lui, il n'est même pas haïssable quelque part. On le voit, et nous-mêmes, on reste très extérieur. On le voit faire des choses absolument ignobles, mais on avance pas vraiment. Et en effet, tout à l'heure, on disait que c'était une boucle, c'est ça, parce que ça se termine comme ça a commencé. On est dans un autre port, mais on est avec la même petite chanson, un type qui est toujours là sans vraiment y être, et on se dit qu'il a évidemment rien appris, rien retenu. Et nous-mêmes, c'est vrai qu'on se pose un peu cette question, tiens, mais où est-ce qu'on est allé? Mais pourtant, je partage l'enthousiasme d'Antoine Guillaume. Je trouve ça remarquable et je trouve ça très, réjouissant.
Non, mais une virtuosité qui est
indéniable,
qui est évidente.
Indéniable, des vraies fulgurances, c'est vrai ce que vous dites, Antoine. Mais je trouve que finalement, ce qui est le plus intéressant, encore une fois, d'un point de vue narratif, c'est cette vie dans les limbes où ce sont c'est l'endroit où il y a de véritables échanges, où des personnages sont à peu près accessibles dans leurs échanges, bien qu'ils soient en train de se décomposer. C'est paradoxalement dans ce royaume des presque morts, des quasi morts, qu'il y a le plus de vie.
C'est vrai.
Enfin, d'une certaine façon, parce que le personnage, lui, de Guy, traîne la mort à ses basques en permanence, quoi.
Antoine Guillaume.
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur le mot d'incarner. Parce que pour moi, c'est une pure incarnation, mais il n'est pas psychologisé, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ça reste un personnage complètement opaque, mais qui, par le dessin, par la gestuelle, par le talent qu'ils ont tous dans cette bande pour représenter les corps en mouvement, est formidablement là. Il est là et on le suit.
Alors, c'est un portrait simplement graphique. Alors.
Mais c'est un portrait comme on le fait en peinture. On n'est pas.
Alors, on va pas partir là-dessus.
Ça dépend desquels. Vous rentrez pas forcément dans l'intériorité d'un personnage. Mais pour le coup, oui, c'est un portrait behavioriste. Je dirais de ce personnage que vous voyez, que vous accompagnez dans des aventures
qui sont quand même
absolument formidables. Et je pense que le livre aurait beaucoup perdu si on nous avait raconté l'enfance de Guy malheureuse, battue par ses parents, qui l'aurait fait verser dans l'alcoolisme, et quels sont ses états d'âme au moment où ils le font. Parce qu'il a de toute façon un esprit tellement embrumé qu'il n'est plus qu'un corps qui agit, qui par moments ne fait que baver, que s'écrouler par terre quand son corps le lâche. Moi je trouve ça formidable, et formidablement osé, et formidablement nouveau dans la bande dessinée de raconter ça comme ça.
Il n'est plus qu'un corps, mais aussi il a un visage. Et ça, c'est des choses assez classiques chez Rupert et Mulot. C'est que les gens n'ont pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche. Guy, c'est le seul qui a véritablement des yeux, avec le petit garçon qui croise le petit moussaillon.
Parce que c'est Scrowen qui fait la couleur, ça on reconnaît son talent pour la couleur. Parfois, il esquisse à la couleur des visages aux personnages Ruperto-Mulotien.
Pas de traits.
Et dans cette espèce de purgatoire aussi, où vont s'entasser peu à peu les victimes de Guy ou les autres personnes qui meurent sur sa route, les gens ont monstrueux, mais là aussi des visages, des nez qui peuvent se déformer, s'allonger. Alors il y a tout un jeu aussi, à mon avis, intéressant sur cette avoir un visage ou pas. Est-ce que ça a un rapport avec la psychologie qu'Antoine Guillaume évoquait? Je ne sais pas.
Antoine, une réponse là-dessus?
Je pense que les gens autour de Guy n'existent tellement pas qu'ils n'ont pas de visage, de toute façon. C'est juste des formes à abattre et à voler de temps en temps.
Oui, mais ils sont quand même, pour nous, lecteurs, intéressants, tous ces personnages qui sont derrière Guy et tous ces personnages secondaires sont quand même, heureusement qu'ils sont là aussi.
Bon, premier chef-d'œuvre de la rentrée, c'est ce qu'on retient, enfin de l'année plus exactement, ce qu'on retient, cette parole d'Antoine Guillaume qui doit donner envie à nos auditrices et auditeurs de se procurer, de se faire offrir Portrait d'un buveur de Scrowen, Rupert et Mulot. qui vient de paraître chez Dupuis. À suivre dans cette émission ce soir, Posey Simmons, Mikkel et Blutch.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la bande dessinée, pour parler à présent de Cassandra Dark, doit-on dire Darky ? Parce qu'il y a un E à la fin, on va pas trancher ce soir. Par contre, il faut dire poser Simmons.
Absolument, il y a deux M.
Il y a deux M, donc Simmons. Chez Donald Graphic, on a eu le plaisir de recevoir deux fois ensemble Posey Simmons sur cette antenne de France Culture, François Guillot.
C'est mon nom, François Guillot.
Allons bon. Antoine Guillot. J'ai envie de vous rebaptiser peut-être aujourd'hui. Vous nous la présentez, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas.
Alors, Posey Simmons, si vous ne la connaissez pas et que vous êtes dans les environs de Paris à partir de ce week-end, allez découvrir ses œuvres à la Ferme du Buisson, puisque c'est une des invitées d'honneur du festival Pulp. Vous pouvez aussi lire So British, l'art de Posey Simmons, ce monographie graphique qui lui est consacré. Et puis si vous ne voulez pas, je vais vous le dire en deux secondes. Posey Simmons, c'est une autrice qui est très rare parce qu'elle a publié peu de livres. C'est seulement son troisième roman graphique. Il y avait eu aussi publié ses chroniques littéraires qu'elle avait publiées au fil des années dans le Guardian. Et c'est là qu'elle a commencé. C'est quelqu'un qui vient de l'illustration à la britannique. C'est une sorte d'émule en plus contrôlée et élégante d'un Quentin Blake, par exemple. Moi, son trait m'y a toujours fait beaucoup penser, et dont la spécialité est de faire du roman graphique, littéralement. C'est-à-dire qu'elle applique le principe de la littérature jeunesse avec du texte et des dessins, et puis tout d'un coup, elle va partir dans la bande dessinée et elle va y revenir, le tout en jouant avec des œuvres littéraires, puisqu'elle s'était fait connaître avec Gemma Bovary, sa relecture d'Emma Bovary. Elle avait ensuite fait Tamara Drew, qui était une relecture de Loin de la foule déchaînée, et ici, elle s'attaque au conte de Noël de Dickens, rien moins que ça avec ce nouveau livre. Donc c'est quelqu'un qui persiste dans sa forme et qui s'en sert à chaque fois pour faire un portrait de la société britannique avec une sorte d'acidité très tendre, très british.
Avec des succès internationaux très forts et des adaptations. Ouais. Au cinéma, pour les deux premiers, on imagine que les droits sont déjà payés une fortune. On saura par qui.
Sans doute.
Un de ces jours pour ce troisième.
Take it all lying down, 'cause once I get started I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. 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 And I don't wanna fall around like everybody else.
Alors, elle n'est pas comme les autres, mais ça c'est sûr. On va voir pourquoi, Cassandra Dark. Mais donc, comme un nouveau livre de Posey Simmons, c'est toujours un événement. Un premier tour de table rapide pour savoir si l'événement est à la hauteur attendue. En un mot, une phrase, plus exactement, Antoine Guillot.
Je trouve le récit toujours aussi mené avec virtuosité, le dessin toujours aussi élégant. C'est pour une fois, c'est une anti-héroïne qui n'est pas aussi sexy que les précédentes et qui est très complexe, et ça je le salue. Malheureusement, je trouve que c'est un peu gâché par un retournement final en forme de rédemption, un petit peu forcé quand même.
Bon, ça fait au moins 4 ou 5 phrases ça, mon cher Antoine. Non, on va voir si Catherine Robin a préparé...
Non, moi c'est... C'est plus court, allez-y. Mais si c'était simplement le meilleur Posey Simmons. Simmons.
Voilà une phrase d'accroche. Victor Massé de l'Épinay.
Oh, moi, je n'ai pas préparé de phrase d'accroche. Un très grand plaisir de lire et de le relire immédiatement. Et envie de le recommencer encore une troisième fois, pourquoi pas.
Alors, maintenant que vous l'avez déjà lu deux fois, Victor Massé-Lépiné, vous allez pouvoir nous dire qui est cette Cassandra Dark.
Eh ben, Cassandra Dark, alors moi je disais peut-être Dark, mais bon.
Ah non, Dark, ça c'est sûr que non.
Bon,
c'est Darkie, si vous voulez.
C'est cette...
Dark, non.
Non, alors
non, on est
Cassandra
d'accord là-dessus
Dark.
Quand même, non.
Quand même, ça serait bizarre.
C'est pas possible. Bon,
pardonnez-moi, je suis pas...
Je vous en prie.
Je pense que les auditeurs sont anglophones sont déjà en train
ça
de s'écrire, donc D-A-R-K-E. Aidez-nous.
Moi je dirais Darkie, mais bon.
Cassandra Darkie,
c'est ça. Il y aurait un Y à la fin si c'était Darkie.
Bon. Bref. Bon, allez, on va pas embêter Victor avec ça plus longtemps. On veut savoir qui est cette Cassandra, voilà.
Eh bien, c'est cette anti-héroïne. C'est cette anti-héroïne dont Antoine Guy va parler, cette grosse femme qu'on voit sur la couverture de l'album, qui est septuagénaire, qui a son manteau, son écharpe, sa grosse chapka doublée de fourrure blanche qui lui couvre les oreilles, et, chose plus étrange et surprenante, qui saute aux yeux, des gants de vaisselle en caoutchouc jaune et un gros pistolet dans la main droite. Donc, ça donne tout de suite une connotation, une coloration un peu policière à cette histoire, mais avant que cette histoire policière arrive, Cassandra Dark, eh bien c'est une galeriste, une très riche, qui habite à Chelsea, dans une grande maison qui coûte 8 millions de livres, avec un chauffeur et une cuisinière. Et c'est avant tout ça une femme très seule, elle est divorcée depuis longtemps, elle est misanthrope, acariâtre, radine, cynique, et elle déteste la joie de Noël et la frénésie d'achat des londoniens qui s'agglutinent le long des vitrines dans les premières pages de l'album. Tout ça nous amène à la figure de Scrooge, puisque Antoine Guillot a évoqué Scrooge de Dickens dans un conte de Noël, donc Cassandra Dark est manifestement inspiré de Scrooge. Certaines de ses répliques sont directement tirées de l'œuvre de Dickens, mais ce n'est pas, à proprement parler, une adaptation d'un conte de Noël. Il n'y a pas d'esprit dans cette histoire, il n'y a pas de voyage dans le temps.
Ah, il y a un fantôme, il y a le fantôme du mari quand même.
Oui, mais il est très en filigrane. Simplement, Cassandra Dark est aussi malhonnête. Elle a un peu bidouillé dans sa galerie. Elle va se retrouver moins riche, licencier son chauffeur et sa cuisinière, et finalement se retrouver obligée, par certaines circonstances dont on va parler, de se mêler un peu de la vie des autres. Et c'est l'histoire qui va être racontée.
Cette histoire, elle nous la raconte comment, Catherine Robin ? Parce que c'est vrai que quand on n'est pas familier de Posy Simmons, ou qu'on ouvre cet ouvrage, on voit qu'il y a quand même des choses assez différentes et pour certaines ou certains, sans doute inattendu.
Absolument, ouais. Antoine en a un petit peu parlé. Elle a su développer une vraie singularité qui est présente chez Gemma Bovary et Tamara Drew. Elle fait du roman dessiné au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle mélange du texte littéraire avec des cases qui ont des dialogues dans des bulles. Donc ça peut en effet en déconcerter certains. Ceux qui, quand ils lisent un livre, aiment lire un livre et quand ils lisent une bande dessinée, aiment lire une bande dessinée avec un gaufrier, des bulles, voilà. Mais je les engage vraiment à dépasser ces réserves parce que il y a vraiment une maîtrise totale de cet art de la composition de la page chez Posy Simmons. Et de fait, il y a une vraie fluidité de lecture. Victor disait qu'il l'avait lu et relu et relu, mais je suis totalement d'accord. Quand on termine, on a envie de repartir sur la lecture. D'autant plus que, là, en l'occurrence, le scénario est extrêmement bien ficelé. Il y a plusieurs histoires, une intrigue policière, le portrait de cette femme. Il y a en effet cette fin qui est un poil problématique. Je rejoins un peu Antoine là-dessus, c'est vrai. Mais il y a aussi sur la forme son art du détail qui est extrêmement précieux. On a l'impression d'être dans des miniatures, dans des maisons de poupées. On est dans des décors extrêmement réconfortants, mais qui voisinent aussi avec des choses beaucoup plus trash et qui sont un peu à son image, à Posy Simmons, qui a, je ne sais pas si les gens la connaissent, mais c'est une dame qui a environ 70 ans, qui est très élégante, qui a une élégance très britannique, mais qui en fait à l'intérieur cache vraiment un réserve. C'est vraiment une
personne. C'est une punk. Oui.
C'est une vraie punk. Et ça se voit dans notamment les dans certaines de ses pages. Cette Cassandra Dark ne se fait pas à manger parce qu'elle a dû licencier sa cuisinière et donc elle ne fait que se livrer des plats à cuisiner. Et le livre est assez gris parce que ça se passe à la période de Noël et Mais il y a des formidables planches de nourriture, des hamburgers, de toute la junk food que mange cette Cassandra Dare qui traite.
Moi, je regarde, ça va me donner faim là.
Qui traite à peu près son corps comme elle traite les autres, c'est-à-dire que elle.
Pas avec beaucoup d'attention et de déférence.
Absolument. Donc. Je trouve que elle ressemble vraiment à ses dessins et voilà, et je reviendrai après sur le caractère peut-être de Cassandra dont on a déjà parlé ou je ne sais pas où.
Mais Antoine Guillot va enchaîner, voilà. Nous donner son sentiment et développer aussi cette approche critique de cet album.
Mais précisément, Cassandra Dare. C'est ce caractère qui m'intéresse beaucoup. On c'est encore un portrait de monstre, un peu moins monstrueux et infréquentable que le Guy dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est très fort, c'est qu'elle nous fait, alors là, pour le coup, complètement rentrer dans son personnage. Et alors, je ne sais pas si ça a développé mon côté râleur aigri,
non, y a pas
etc.
De
mais on est prêt,
chacun ici le sait.
On est prêt à penser comme elle, surtout. C'est-à-dire qu'on est prêt à trouver effectivement ridicule. Bah, c'est un on.
Je ne suis pas dans cette équipe là.
Non, mais elle n'est pas là pour la condamner. C'est ça que je veux dire. Elle n'est pas là. Et c'est là la différence avec le Scrooge de Dickens, qui était vraiment un personnage extrêmement typé. Et on ne peut jamais adhérer à sa façon de se conduire et à sa façon de penser. On peut, comme elle, trouver tout à fait ridicule les interventions artistiques sur les réseaux sociaux qui consiste à se dénuder et à marquer un message sur la partie en disant moi je me dénude mais je suis pas une femme objet parce que c'est moi qui ai décidé de me voilà, ça pose question on peut se dire effectivement que les enterrements de vie de jeunes filles dans les bars on n'en peut plus parce que ça c'est le côté moraliste
on parlait d'expérience.
Non mais vous en voyez des filles qui essayent de vous vendre des morceaux de papier cul dans la rue ou qui ont leur pompon sur la tête comme ça voilà bon
ce qui est
très fort avec Pussy Simone c'est que et c'est ce qu'elle fait depuis le début, c'est ce que je disais sur sa façon un peu de critique de la société américaine, critique tendre, mais quand même extrêmement moraliste. Et c'est une grande moraliste qui remarque ce qui se passe dans la société sans en faire des clichés. C'est un vrai regard original et sa façon non pas d'adhérer, de dire c'est parce que ça ferait un livre épouvantable d'une personne aigrie, mais de comprendre qu'on puisse avoir ce genre de sentiment, de ne jamais être dans la condamnation de son personnage infréquentable. Je trouve ça extrêmement courageux, extrêmement fort et tout à fait virtuose.
Alors on pourrait se dire que d'avoir cette héroïne aussi, ce serait une transgression de plus de mettre cette femme. Alors la référence à Scrooge, elle est compliquée parce que on peut tout à fait lire cet album sans du tout le savoir qu'il s'agit d'une adaptation et on va mettre
plein de
démons.
C'était le cas des précédents.
Gemma Bovary, c'est quand même dur de ne pas le savoir.
C'était plus énorme, mais Loin de la foule déchaînée qui a lu la foule déchaînée en France.
Mais pour autant, est-ce que c'est pas plus facile pour un personnage comme celui-là de... Il n'y a pas une facilité à ce qu'elle se ressemble à ce que ressemble Cassandra. Est-ce que si c'était Gemma Bovary qui se conduisait comme l'héroïne de Cassandra Dark, ce serait pas un peu plus justement inattendu, un peu plus compliqué aussi pour le lecteur?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cassandra est un pendant féminin de Scrooge. Ça, c'est assez clair. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin, il y a ce moment de rédemption. Antoine disait qu'il était peut-être un peu artificiel, mais à la fin, on la voit donner l'aumône à des mendiants, donner à des œuvres caritatives. Ça, c'est exactement la fin du conte de Noël de Dickens. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord sur ce portrait psychologique très qui ne juge pas son personnage. D'abord, c'est une femme sans doute méchante, cynique, mais très intelligente. Et elle condamne ses enterrements de vie de jeune fille en une ou deux phrases qui sont toujours extrêmement
bien. Son arnaque, elle n'est pas très intelligente. Donc je ne suis pas sûr de l'intelligence de la femme.
Non, mais sa lucidité, disons, est très, très clinique. Et elle a des phrases comme ça qui condamnent très vite et très bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce portrait psychologique, c'est une double page sur la sexualité quand elle invite chez elle ses amis, un couple d'amis homosexuels à dîner. Et que sa nièce qui habite donc dans le basement en dessous est avec son
sous-sol donc
dans le sous-sol voilà est avec son fiancé et qu'elle entend donc les amis entendent les ébats sexuels de ce jeune couple. Alors d'abord elle a une façon Pussy Simmons a une façon tout à fait magistrale, élégante de représenter cette scène érotique où on voit presque que des mains dans une bande, on voit que des mains roses sur des sur des traits de corps qui sont à peine esquissés, et c'est très beau, ça suffit, c'est tout à fait juste. Et ensuite on voit cette Cassandra Dark totalement écrasée par ses réflexions, pour une fois un peu d'introspection, où elle se dit que peut-être qu'elle a raté quelque chose en ne se laissant pas aller, que sa vie sentimentale et sexuelle a été un désastre. Et il n'y a pas de gros sabots dans cette façon de faire. J'ai trouvé que ça donne une profondeur psychologique sans que ce soit trop. On se dit, ah, évidemment, voilà, qu'elle commence à se lamenter. Le ton est toujours très juste, j'ai trouvé, dans le portrait psychologique.
Catherine Robin.
Oui, mais justement parce que Posy Simons a réussi à montrer comment un personnage, enfin, son personnage peut s'assécher totalement. Moi, je parlerais plus d'aigreur à son adresse à cette femme. Il y a d'ailleurs une scène, moi, une page que j'aime beaucoup, c'est la page du suicide, enfin, où elle dit. Alors, est-ce que j'aurais le cran d'y aller ? Puis elle passe en revue toutes les possibilités, puis elle finit par se dire, bah, je préférais l'hypothermie dans mon jardin japonais que ce jardin japonais que je déteste, fait par mon jardinier, que j'ai dû virer là aussi comme ma cuisinière, et donc j'aimerais devenir une pierre et mourir d'hypothermie. Mais on sait très bien qu'un personnage comme celui-ci ne passera jamais à l'acte, parce qu'elle est tellement occupée à haïr le monde et à se haïr soi-même. Et cette page dont vous parlez là, sur d'ailleurs les petits cochons, je ne sais pas si vous avez enlevé la double, voilà, mais ils sont aussi en couverture du livre, les deux petits cochons, sur la page dont vous parliez, Victor. Mais c'est très intéressant, le rapport au plaisir de cette femme qui a été complètement desséchée et qui a quitté son mari, et puis son mari s'est remarié avec sa sœur, sa propre sœur. Et voilà, moi je trouve que c'est un beau portrait de femme totalement déprimée, et dépressive et aigre.
Antoine, Guillaume.
Pour finir sur le physique du personnage dont vous parliez, ce qui est intéressant, c'est que le physique n'est pas utilisé pour la caractériser. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Non, c'est vraiment l'envie de dessiner. Je pense qu'il y a de sa part, hein, l'envie de dessiner un corps de femme de cet âge-là. Justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux actrices actrices réellement, parce qu'on sentait qu'il n'y avait plus qu'à les incarner avec une bombe, comme ça l'a été avec Gemma Arterton, qui a joué les deux adaptations.
Elle ne jouera pas Cassandra Dark, a priori.
Elle jouera peut-être la nièce, qui est un personnage complexe aussi, derrière son physique avenant. Et je pense qu'il y a l'envie de ça, parce qu'elle n'est pas... Si elle l'avait caractérisée en avare, méchante, etc., elle en aurait fait, je pense, plutôt une vieille femme sèche, qui est plus dans la physiognomonie de la bande dessinée classique. Ça aurait été ça.
C'est quelqu'un qui a accumulé, qui garde, il y a quelque chose comme ça, donc la sécheresse... Moi je pense qu'elle ressemble à son caractère, et je trouve que c'est un... C'était une réflexion que je faisais
bizarrement, pour vous titiller un peu. Bizarrement, c'est pas le sentiment que j'ai, parce que dans ce genre de bande dessinée, la grand-mère un peu ronde, ça serait plutôt la gentille qui accueille toute la famille et qui fait
regardez encore une fois la couverture décrite tout à l'heure. Hein.
Oui,
est-ce qu'elle est vraiment avenante, cette mamie gâteau là ?
Elle est un peu revêche, mais justement, elle n'a pas le physique de son personnage.
Ah bon, moi je trouve. Bon, peu importe. Allez voir par vous-même, découvrez par vous-même cette Cassandra Dark ou Darky de Posy Simons chez De Noël Graphics. Encore Antoine Guillot de parler, ben oui, parce que c'est comme ça. C'est son coup de cœur pour Blotch. Si on savait pas que vous l'aimiez, celui-là. Depuis le temps que vous en parlez sur cette antenne.
Ben, et comment ? Et on n'aura pas fini d'en parler, heureusement, puisque bientôt il va y avoir son adaptation de Tif et Tondu.
Alors, pensez, parlez pas de l'avenir, parce que le présent est très riche.
Et alors,
Comment allez-vous synthétiser cette actualité, Blotch ?
Alors, je vais le synthétiser en parlant de Strasbourg. Strasbourg, grande ville de l'illustration. Vous avez parlé de l'école excellente qu'il y a là-bas. Les dessinateurs de Strasbourg, c'était Gustave Doré, c'est Tommy Ungerer qui vient de mourir, et maintenant c'est Blotch. Il est très émouvant, juste après la disparition de Tommy Ungerer, que la ville de Strasbourg et donner littéralement les clés de ces musées, de ces lieux d'exposition à Bloch. C'était dans le cadre des rencontres de l'illustration à Strasbourg qui se sont terminées le 31 mars, mais sur les 5 expositions Bloch qu'on a pu y voir dans différents lieux de la ville, il y en a 4 qui continuent et celle qui s'arrêtait donne lieu à un livre, ça s'appelle Reprise, c'est un dialogue en dessin entre Bloch et Anne-Margot Rammstein qui est une jeune dessinatrice installée à Strasbourg, c'est un peu amour chienne sous forme d'échange de dessins, une histoire qui se continue les unes après les autres. Si vous avez une exposition à voir, il y en a deux. Il y a celle du musée Tommy Ungerer qui s'appelle Bloch, un autre paysage, dessin 1994-2018, où on voit notamment les illustrations qu'il a fait pour la musique et pour le cinéma, où on voit la propre collection de dessins de Bloch. Mais alors surtout, ne ratez pas, au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, Bloch, art mineur de fond, une expo très casse-gueule a priori, puisqu'on a proposé à Bloch d'aller puiser dans les réserves du musée et d'aller chercher des œuvres et de les mettre non plus en dialogue, mais en confrontation, en rupture avec ses dessins. C'est souvent la question de la bande dessinée, est-ce qu'elle tient le mur? Est-ce qu'on peut exposer un dessin de bande dessinée sans que ça ait l'air ridicule? Alors, c'est encore plus difficile quand en face on met du Aleschinski, du Dürer, du Max Klinger et même du Renoir. Eh bien, preuve à l'appui, Bloch, ça tient extraordinairement bien et il se révèle notamment comme un grand dessinateur érotique dans la lignée d'un Balthus ou d'un Klosowski, surtout. C'est magnifique. Allez, courez tous à Strasbourg voir ça. Et si vous ne pouvez pas
jusqu'à
y aller...
Jusqu'à quelle date?
Alors, les expositions, il y en a une qui s'arrête le 20 avril, qui est hors la loi, mais surtout, les autres, c'est jusqu'au 30 juin. Donc, vous avez tout à fait
voilà
le temps. Et puis, vous pouvez vous procurer, si vraiment vous ne voulez pas aller à Strasbourg, Bloch, un autre paysage, le catalogue de toutes ces expositions, c'est chez Dargaud et c'est sublime.
Ah oui, ça donne envie tout ça. Merci d'avoir partagé cette grosse actualité Bloch.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Synthétiser, vous avez oublié un truc, Antoine.
J'ai oublié quelque chose d'important, c'est que Bloch nous fera visiter toutes ses expos samedi soir dans Mauvais Genre.
Ah! Voilà, avec le camarade François Angelier. Vous faites bien de le dire, quand même. Bon rattrapage. La dernière bande dessinée à notre programme chargé, Saint-Rose, à la recherche du dessin ultime de Micole, chez Futuro de Police. Là, Victor Massé-Dépiné, c'est à vous de nous faire une petite présentation d'Hugues Micole.
Eh bien, Hugues Micole, pour dire très rapidement, on peut dire que c'est un auteur qui touche à tous les styles. On l'a vu donner dans la science-fiction érotique chez Les Requins-Marteaux avec La planète des vulves. Il a fait de la dystopie politique chez Casterman avec Le printemps humain, plusieurs incursions aussi dans la bande dessinée historique, le plus souvent comme dessinateur seulement. On peut citer Bonneval Pacha, qu'il avait fait avec Gwen de Bonneval chez Dargaud, ou très récemment, cette année, le quatrième tome de l'histoire dessinée de la France, édité par La Découverte et La Revue Dessinée, consacré au Haut Moyen-Âge, qu'il a illustré avec l'historien Bruno Dumézil comme auteur. Alors, comme auteur à part, comme auteur complet, on l'avait laissé en 2017 avec un livre glaçant et fantastique qui était Scalp. Je vois Antoine Guillaume qui lève les mains au
on
ciel.
On en avait parlé ici.
Scalp, la chevauchée funèbre de John Glanton et de ses compagnons de carnage. Et là, voilà un nouveau virage ou une nouvelle piste ouverte par Micole avec un livre d'aventure, là encore tambour battant. Mais Micole n'est plus seulement un auteur, il est aussi un personnage.
On avait fait un quiz musical, ça aurait été dur hein, quand même. Hein. Antoine Guillaume.
Mais il y a un côté Coq à l'âne qui correspond très bien.
Alors Claude Bolling, c'est la BO du Magnifique. Pourquoi le Magnifique? Peut-être qu'Antoine va nous le dire avec le point de départ du récit avant le petit tour de table.
Oui, parce que c'est un peu des aventures échevelées qui commencent par une visite. Donc une visite dans une villa au bord de la mer. Un homme un peu chauve et barbu qui ressemble à Hugues Micol pour les gens qui connaissent Hugues Micol. Mais il va de toute façon tout de suite se présenter
donc,
en disant je suis Hugues Micol, auteur de bande dessinée. Va rendre visite à un détective de haut vol qui est un peu la tête d'Errol Flynn. Qui va lui demander de retrouver un dessin qu'on lui a volé lors d'une soirée champagne, une soirée privée sur le thème des impressionnistes, où il faisait le Van Gogh au milieu des fêtards. Et puis dans un moment où il était un peu tranquille, il a fait le dessin ultime qu'on lui a volé immédiatement.
Il ne se rappelle plus du tout.
Et il se rappelle pas, et ça va être un peu le MacGuffin de cette histoire, comment retrouver le dessin volé. Mais très vite, on est dans un univers, comment dire, pas très réaliste, mais absolument non-sensique, au sens propre du non-sens, c'est-à-dire que notamment en prenant des expressions au pied de la lettre, donc les poules ont des dents, chez Hugues Micol, il y a un papou qui s'appelle Comment, donc ça fait des blagues comme ça, sans arrêt, comment, on ne sait pas si on dit comment, et lui dit souvent comment, c'est d'ailleurs le seul mot français qu'il sait prononcer. À partir de là, on part donc dans une aventure au long cours, très manifestement improvisée, je pense.
Alors, premier commentaire là. Petite phrase, donc, Catherine Robin, le secret.
Non, ça aurait pu être mon coup de cœur tellement ce livre m'a enthousiasmée. J'ai adoré ce livre.
Victor, Mathieu Dépinay.
Tout à fait réjouissant, mais aussi terriblement frustrant, parce que je sens dans toutes les pages non pas des dizaines de références par page, mais enfin beaucoup, et je n'en trouve aucune. Je pressens qu'il y a plein de choses à voir partout, et je n'arrive pas à comprendre, y compris dans les noms, dans les dessins. Voilà, donc, mais quand même un grand plaisir.
Antoine Guillot.
Épique et non-sensique, je l'ai dit tout à l'heure, avec quand même un goût d'inachevé.
Alors Catherine Robin, peut-être pour dire sur quoi repose votre enthousiasme pour ce livre. On l'a dit, c'est difficile de le situer. Si, non-sensique, le registre, ça vous va
totalement,
comme,
totalement. Ouais. L'improvisation me va aussi, en fait.
Mais introspectif aussi.
J'avais pas pensé à cette peut-être écriture sous contrainte, mais c'est tout à fait possible. En fait, c'est à la fois un roman d'aventure, mais c'est aussi un essai sur la condition du dessinateur, puisqu'il se met en scène lui-même. C'est un récit surréaliste, un récit existentialiste, parce qu'il y a des personnages qu'on va croiser qui sont tout à fait
rien que d'y penser, ça pourrait jouer.
Donc on est à la fois chez Jules Verne, chez Boris Vian, chez Lewis Carroll, chez Tintin, voilà, tout est mélangé. Comme l'a dit Victor, on pressent en effet des choses. Les dessins sont un peu rétro, vintage, on dirait des vieilles illustrations du début du 20e siècle. Les personnages, le cochon, le papou, même le héros, Saint-Rose, ressemble un peu à un OSS 117, mais...
Errol Flynn, carrément.
Errol
là,
Flynn,
vraiment,
voilà.
Vraiment.
Bon.
Très directement.
Mais je trouve que... En fait, il est d'apparence très classique. C'est un format franco-belge, voilà. Donc, on ne sait pas très bien sur quoi on va tomber à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il est beaucoup plus moderne et pop de par cette mise en scène et ce décalage, notamment dans les dialogues, notamment dans ce réel et cet imaginaire qui se télescope sans cesse et qui se tuile sans cesse. Et ça crée un décalage et beaucoup de drôlerie. Et surtout, on est quand même dans un récit d'aventure pur et dur. Donc on suit vraiment, on a envie d'avoir la scène suivante, on est happé par le rythme du livre.
C'est-à-dire à la fois un album qui ressemble à ce qu'il l'est, mais qui aussi cache son jeu.
Autre chose, exactement.
Victor Massé de l'Épinay.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le côté improvisation, quand Hugues Micol a une idée, ben on y va. C'est-à-dire que Santorin Saint-Rose, le détective, dit « Tiens, c'est une cigogne qui vous a volé ce dessin. Où vont les cigognes ? À Macao, direction Macao. » On tourne la page, on est à Macao, dans un casino ornithologique où il n'y a que des oiseaux comme clients. Et comme ça, tout est un peu à l'avenant. On sent que dès qu'il y a une idée, ben on y va à fond. On a parlé du personnage de Papou. Il faut dire que les autres acolytes, c'est une espèce de marin gigantesque avec des jambes comme des tonneaux qui s'appelle Maud Piquet. Il y a aussi un homme à tête de
cochon.
C'est
bien quand même, non ? C'est bien ces noms, tous ces noms sont formidables.
Oui, mais je me dis toujours, tiens, pourquoi Mode Piquet? Alors Mode Piquet, c'était un marin, c'était un Piquet de la Motte et tout ça, mais pourquoi? Il y a cet homme à tête de cochon.
Vous êtes parti là-dessus.
Et voilà, alors, et ainsi de suite. Et on voit, pour reprendre un peu ce que je disais,
Le cochon s'appelle Concho, d'ailleurs, ce qui lui va très bien.
Concho Bar, Omuk. Et puis le méchant s'appelle... Et le méchant s'appelle Basile de Hur. Alors Hur, c'est la tête de cochon. Alors on se dit, tiens, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a on cherche des choses. Je sais pas du tout dans quelle mesure Nicole s'est amusée à créer des fausses pistes, parce que sans doute la plupart des références qu'on voit, c'est nous-mêmes qui les suggérons. Peut-être que lui, il a juste fait ça comme ça. Mais enfin, moi, ce que j'ai trouvé de plus amusant, en effet, c'est tous les moments où la condition du dessinateur revient au premier plan, le moment où Captain America débarque et dit, tiens, vous pourriez venir chez Marvel, et il y a un échange, on voit des gangs de latinos qui feuillettent Scalp, donc le livre précédent de Nicole. Tout ça, c'est absolument amusant. Il faut dire aussi que le dessin a été volé, Catherine parlait de dimension existentialiste, il a été volé par Sartre et Beauvoir. Alors là encore on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ce dessin a été fait quand il était déguisé en Van Gogh, en train de courir le cachet manifestement, dans une soirée publicitaire. C'est là qu'advient l'épiphanie, et puis c'est Beauvoir et Sartre qui lui volent le dessin, puis une cigogne, alors on pense à la cigogne qui apporte l'enfant, mais déguisée en perroquet, mais qu'est-ce que tout ça veut dire?
Et alors, ça s'arrête jamais, en fait.
Ça s'arrête jamais.
Je confirme que Victor Vassil de Binet, enfin, a fait un contrôle, vraiment, qui s'est révélé négatif, il n'a pas pris de drogue avant de prendre le micro ce soir.
Par contre, Nicole,
ou alors,
je l'ai
caché. Nicole, ouais, j'aurais pas. Moi, je dis aussi mon très très grand plaisir pour tout ce que vous venez de dire, Victor, et pour tout ce qui se trouve à chacune des pages. Antoine Guillot.
Oui, non, il y a ce plaisir de l'aventure. Ouais. Là encore, c'est un des dialogues qui est cité sur la quatrième de couverture. Je suis auteur, travailleur indépendant dans un monde du livre en crise. Je sais ce qu'est l'aventure, croyez-moi.
Ah oui. Et c'est, moi, ça me réjouit.
C'est ce qui me passionne beaucoup chez Hugues Nicole, c'est ce goût de l'aventure et de ne pas se reposer. Ça lui fait un point commun avec Blood sur sa maîtrise. Parce qu'il sort quand même de livres extrêmement impressionnants. Le Scalp, qui est un chef-d'œuvre absolu de l'art, là encore, de la noirceur et de ce trait charbonneux. Il y a eu deux recueils de peintures qui sont sortis aux éditions Cornelius l'an dernier, qui s'appelait Whisky et Bourbon, et qui sont une étude de l'Amérique qui partait en peinture automatique, mais qui donnait des œuvres extraordinairement fortes. Et là, on a le sentiment qu'il dit, voilà, j'ai fait ça, maintenant, où est-ce que je pars? Et il retourne à ses premières amours, qui étaient toujours chez Cornelius, des livres comme Trois ou Séquelles, qui étaient entièrement improvisés sous l'influence du garage hermétique de Moebius. Et il se lance dans un récit dont manifestement il ne sait pas du tout où ça va aller, sauf qu'il a une sorte de coffre à jouer qui sont toutes ses lectures d'enfance, tout ce qu'il a accumulé dans sa vie et qui seront là comme des ressources pour faire avancer. Et peut-être qu'il a un amour secret pour Sartre et Beauvoir, ou qu'ils l'ont traumatisé lors de ses études. Tout ça, on ne sait pas, mais ça résonne très manifestement avec des choses très fortes chez lui. Là où je trouve où j'ai un petit goût d'inachevé dedans, mais je pense que c'est le propos même de l'histoire, c'est cette recherche du dessin ultime. Et on sent qu'il recherche une nouvelle façon de dessiner, qui sera un dessin beaucoup plus rapide, avec une autre forme, ce qui fait qu'il y a des moments où il ne s'arrête même pas sur le dessin qu'il a fait. Il y a des attitudes parfois que je trouve un peu malhabiles, etc. Mais il y a une telle vitesse, une telle urgence à faire ce livre qu'on y va, on continue, on va à Macao, on va à ceci, à cela. Et le dessin ultime, forcément, il ne le trouve pas. Mais heureusement, puisque le dessin ultime, ça voudrait dire le dernier dessin, le dessin qui parachèverait une carrière et après il n'y aurait plus rien à faire. Donc il est fatal qu'il finisse comme il finit, sans en dire plus.
Voilà, c'est une adaptation du chef-d'œuvre inconnu. Ça ne vous aura pas échappé. C'est Frenhofer, Hugues Nicole. Entre autres, mais moi je pense que tout ça est quand même parfaitement conçu. Je m'étais pas posé la question de l'improvisation, à vrai dire, en lisant ce livre.
C'est une hypothèse, hein, si ça se trouve, il a sué pendant des mois sur l'écriture de son scénario.
Moi je l'imagine extrêmement travaillé, mais c'est sans doute parce que je l'ai énormément aimé, ou alors ça veut dire qu'il a un talent encore plus fou que ce que je pensais, que la condition effectivement de l'artiste, c'est vraiment un fil qui est, me semble-t-il, très justement tiré. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il sait très bien où il va quand même, Victor.
Oui, ce qui est amusant quand même, c'est de dire que le voleur en chef, c'est une sorte de Donald Trump qui a un bouc.
Ah oui.
Et que fait-il avec les œuvres d'art qu'il vole? Alors dans sa réserve, on voit le fétiche à Rumbaya de l'oreille cassée et d'autres références que je n'ai pas comprises. eh bien, elles sont stockées, puis au bout d'un moment, elles partent au recyclage. C'est tout ce qu'on nous dit. Et ça part sur un espèce de grand tapis roulant vers on ne sait pas où.
Le grand broyeur, c'est broyé.
Voilà, donc c'est à ça que sert cette espèce de grande entreprise de vol d'œuvres d'art. Il n'y a pas de recel, il y a du recyclage à la fin.
Il ne faut pas tout divulgâcher, mon cher Victor. Non. C'est bien la première fois que vous venez, mais attention, hein, vous avez peut-être un petit blâme en sortant de ce studio. Catherine Robin, un dernier mot sur.
Non, mais sur le côté marabout, bout de ficelle du livre, moi je pense que c'est surtout un livre qui montre qu'il y a plein de choses à explorer dans l'imaginaire pur et que le dessin est la discipline la plus magique qui soit parce qu'elle autorise tout et elle autorise ça.
Bon, Antoine Guillaume veut décidément le mot de la fin, donc il me redemande la parole.
Non, juste saluer le travail d'Isabelle Merlet, immense coloriste, qui est la seule dont le nom apparaît en couverture des livres. Et c'est notamment la coloriste de Blushed, Isabelle Merlet, grande, grande artiste.
Et on en avait parlé, elle avait fait aussi le Catherine Meurice et les grands espaces, et elle est quasi à la même taille de typo que Hugues Mickel sur la couverture, ce qui est à...
Et du coup, comme généralement je le dis à chaque fois, là je ne l'avais pas dit, donc heureusement, que vous avez rattrapé mon oubli. Mon cher Antoine. Saint-Rose à la recherche du dessin ultime. C'est le titre de ce livre d'Hugues Mickel chez Futuropolis. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Joséphine Dumoulin nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse. Joséphine.
La question était: quel film colombien racontant la rencontre entre un chaman et un ethnobotaniste a lancé la carrière internationale de son auteur? Et la réponse était L'étreinte du serpent de Ciro Guerra.
Ce soir, on fait gagner des DVD du film La saveur des ramen d'Eric Kou, distribué par KMBO. Quelle est la question, Joséphine?
Quel film d'Eric Kou, considéré comme érotique, est interdit aux Singapouriens de moins de 21 ans?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, là, si vous avez la bonne réponse, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, prise de son Nasser Moussaoui, réalisation Alexandre Fougereau. Information à retrouver sur cette émission en passant par le site franceculture.fr à la page de la dispute. On peut la réécouter, on peut bien sûr les podcaster, ces émissions. Demain, 19h, en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, une dispute cinéma avec Muriel Joudet, Florence Colombani et Lucille Como. Nous parlerons de Synonymes, Nadav Lapid, de Los Silencios, de Béatrice Seignier, le coup de cœur de Muriel Joudet pour The Intruder en DVD, le film de Roger Corman, et puis un petit salon de Lucille Como, comment filmer les gilets jaunes.